Luc. Et donc à partir de cette semaine, eh ben, on va reprendre à partir du chapitre 7. En tout cas, bienvenue à tous. Alors avant de lire notre texte, je voulais commencer par une illustration. J'aime bien faire ça avant chaque message. Et je voulais vous parler de ce film. C'est un film que j'ai vu il y a 3 mois qui s'appelle Jungle Cruise. Alors sans essayer de tout vous raconter sur ce film, je vous raconte juste le synopsis qui peut être trouvé sur Internet. C'est l'histoire d'un conquistador qui s'appelle Lope de Aguirre. Ce conquistador, en fait, sa fille, elle tombe gravement malade d'une maladie incurable pour l'époque. Et donc, étant donné qu'il ne sait pas quoi faire, il est un peu... Il va essayer de se mettre à la recherche, il va partir avec toute sa flotte et tout, à la recherche d'un arbre dont les pétales permettraient de guérir n'importe quelle maladie. 400 ans plus tard, on nous raconte l'histoire de cette botaniste jouée par Emily Blunt qui s'appelle Lily Houghton. Et elle est persuadée que cette légende de cet arbre sacré existe. Et on est en plein contexte de la Première Guerre mondiale, il y a énormément de morts. Et elle se dit, bah, c'est la solution idéale pour permettre de soigner tous les soldats partis au front. Que nous montre ce film finalement? Alors, plein de choses, hein, mais je vous explique tout le film évidemment. Qu'est-ce que ça nous montre? C'est qu'on a des personnages, ce conquistador, cette botaniste, qui sont impuissants face à la mort. Et leur seule chance, finalement, c'est de trouver ces pétales magiques, ces perles de lune qui leur permettraient de résoudre ce problème de la maladie, ce problème de la mort. Un problème tellement important qu'il est au centre de tellement de films de nos jours. Alors ça, c'est l'arbre dans le film, avec les pétales de lune qui permettraient de soigner n'importe quoi. On a des films sur la cryogénisation, on a des films sur la fontaine de jouvence, on a des films sur le Saint Graal, toutes des moyens parmi tant d'autres pour guérir certaines maladies, guérir de la mort, permettre la vie éternelle. Il y a un mois, peut-être que vous êtes au courant, il y a une start-up qui s'appelle Altos Lab, et on a l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos, entre autres, il allait dans l'espace. Mais il a également investi des milliards et des milliards de dollars dans cette start-up. Qui fait quoi cette start-up? Elle fait ce qu'on appelle de la reprogrammation cellulaire, du rajeunissement cellulaire. C'est essayer de trouver un moyen de rajeunir nos cellules pour vivre le plus longtemps possible. En fait, on voit que ce problème de la mort, c'était le cas à l'époque de ces conquistadors, c'était le cas, c'est encore le cas aujourd'hui, c'est un problème qui nous touche tous, un problème universel. Il touche tout le monde de la même manière, les hommes comme les femmes, les enfants, les riches comme les pauvres. Le ratio reste le même, il y a toujours un mort à chaque fois. Et cette mort, elle peut également toucher nos proches, les gens qui nous sont chers. Et je pense qu'on est d'accord de dire qu'il n'y a rien de plus triste, de plus difficile à vivre, de plus tragique, de voir une personne que nous aimons aux portes de la mort. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? C'est pas très joyeux. Ben, c'est justement parce que le texte qu'on va lire ensemble, ça nous montre que ce problème de la mort, il est déjà présent à l'époque de Jésus. Et ça va être la mauvaise nouvelle de ce texte, qu'il y a une mort universelle qui nous touche tous. Mais ce que je vous propose de voir dans un second temps, c'est que face à cette mort-là, il y a une solution. Et cette solution, c'est pas toutes ces choses qu'on a vues juste avant. Cette solution, elle se trouve en Jésus qui, comme des prophètes avant lui, il a une autorité surnaturelle exceptionnelle sur la maladie et sur la mort. Et donc ce que je vous invite à faire, c'est à lire ce texte dans Luc chapitre 7, les versets 1 à 16. Je vous laisse le temps de prendre vos passages si vous voulez. Il est affiché à l'écran si besoin. Luc chapitre 16, versets 1 à 16. Et je vais essayer de lire d'une certaine manière en mettant le ton sur certaines phrases. Essayer de voir un peu où est-ce que je le fais, ça vous aidera à comprendre un peu où est-ce que Luc veut nous emmener dans ce texte. Après avoir prononcé toutes ces paroles devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un officier romain avait un esclave auquel il était très attaché et qui était malade, sur le point de mourir. Il entendit parler de Jésus et il envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir guérir son esclave. Ils arrivèrent vers Jésus et le supplièrent avec insistance, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a fait construire notre synagogue. » Jésus partit avec eux. Il n'était plus très loin de la maison quand l'officier envoya des amis vers lui pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je n'ai pas jugé bon d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à des supérieurs, et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un « Pars !» et il part. Je dis à un autre « Viens !» et il vient. Et à mon esclave « Fais ceci !» et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira l'officier, et se tournant vers la foule qui le suivait, il dit « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les personnes envoyées par l'officier trouvèrent l'esclave qui avait été malade en bonne santé. Verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Nain. Ses disciples, en assez grand nombre, et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple ». Face au problème de la mort, vers qui nous tournons-nous ? Et donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est qu'on voit la première chose dans ce texte qui est cette mort universelle, cette mort qui va toucher à la fois l'esclave du centenier et à la fois le fils de cette veuve. Et alors, vous l'avez compris, ce passage de 16 versets nous montre deux récits, le récit du centenier et le récit de cette veuve. Deux personnages pour lesquels tout s'oppose. On a un non-juif avec ce centenier, un roman, et on a une juive, cette veuve. On a un homme, une femme, un homme sûrement très riche, il peut se permettre de bâtir des églises après tout, et une veuve qui risque par la suite d'avoir de gros soucis financiers. Et pourtant, malgré toutes ces différences qui les opposent, ces deux personnes vivent la même chose, la douleur de la mort ou d'une maladie mortelle d'un être qui leur est cher. Un serviteur auquel il était attaché pour le centenier, un fils pour cette veuve. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde dans un premier temps le passage du centenier. Alors peut-être que vous ne savez pas ce que c'est qu'un centenier. Un centenier, c'est un officier romain qui avait sous ses ordres une centaine, 80, 90 hommes. On ne sait pas vraiment le nom, mais voilà. C'est donc un chef militaire. C'est quelqu'un qui doit sûrement avoir des insignes, des décorations, des dorures. Quelqu'un qui a un bon statut dans l'armée. C'est pas n'importe qui. Et si on se remet dans le contexte de l'époque, on avait ces centeniers qui étaient stationnés dans des villages ou dans des régions pour s'assurer qu'il n'y avait pas de problème. Eh ben, on est dans une situation où les Juifs sont sous occupation romaine. Eh ben, ces centeniers-là, c'est pas des gens qui seraient bien vus par le peuple. Ça serait l'ennemi. C'est l'oppresseur. C'est un occupant. Et donc, on peut s'imaginer lorsqu'on lit ce texte, oh, c'est une mauvaise personne qui arrive. Sauf que comment commence ce texte ? En fait, on va voir que cet homme, ça a l'air d'être une bonne personne, un homme bon. La première chose que nous dit ce texte, c'est que un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Il avait un serviteur auquel il était très attaché. Petite parenthèse, c'est le philosophe Goethe qui dit qu'on reconnaît la valeur du caractère d'un homme à la façon dont il traite ceux qui sont plus bas que lui. Comme il traite ceux qui sont sous lui, entre guillemets, ses esclaves, ses serviteurs. Il lui était très attaché. Peut-être que c'est juste quelqu'un qu'il aimait bien pour X raisons. Mais regardez la suite. On a des personnes, des anciens, des juifs qui arrivent. Ils vont voir Jésus. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont supplier Jésus. Ils le supplient en disant, il mérite que tu lui accordes cela. Il mérite que tu viennes le guérir. Pourquoi? Parce qu'il aime notre nation. Il a bâti une synagogue, une église. C'est comme si tu te rendais aujourd'hui en Afghanistan tu visites un village pris par les talibans et qu'au lieu de te peindre le portrait d'un agresseur armé d'une kalachnikov, il te parle d'une personne en bien qui, malgré les ordres et les directives qu'il a dû recevoir, il aime ce village, il aime ses habitants et il les aide du mieux qu'il peut. Voici comment nous est présenté ce centenier. Alors c'est vrai que si on connaît le contexte de l'époque, on se dit, c'est vrai que certains centeniers s'étaient rapprochés du peuple. Ils s'étaient rapprochés justement des pharisiens, des scribes et des collecteurs d'impôts, ceux qui avaient une certaine importance dans la société. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ce qu'on appelle des zélotes, des groupes de personnes qui avaient envie de renverser l'occupation romaine. Et donc, le meilleur moyen d'éviter les conflits, c'est de se rapprocher du peuple et notamment des autorités de l'époque, juives de l'époque. Mais là, on voit vraiment des anciens supplier Jésus. Ils auraient pu aller vers Jésus et lui dire « Non, ne le fais pas !» Le centenier n'était pas là pour vérifier. Mais non, il le supplie. Il mérite que tu lui accordes cela. On voit que ce n'est pas quelqu'un dont la gentillesse est intéressée. Ce n'est pas de la manipulation. Non, c'est vraiment quelqu'un qui semble s'attacher à ses esclaves et à ceux qu'il côtoie. D'où leur supplication, il mérite cela. Mais quelle est l'ironie de la chose ? C'est comment lui, le centenier, il se voit. Ne te prends pas de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Verset 7, une deuxième fois. C'est aussi pour cela que je ne suis pas venu moi-même vers toi, parce que je ne suis pas digne d'aller en personne vers toi. Qu'est-ce que les autres disent de lui ? Il est digne que tu lui accordes cela, il mérite que tu lui accordes cela. Comment le centenier se voit ? Je ne mérite pas. Je ne suis pas digne. On ne connaît pas sa vie, on ne connaît ni son nom, ni ce qu'il a fait. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il ne pense pas mériter que Jésus vienne guérir son serviteur, malgré toutes ces bonnes actions qui ont l'air transparaître de ce texte. Mais ce qui est le plus fort, c'est qu'il dit « je ne mérite pas ». Mais par la suite, il va dire « mais pourtant, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Dis un mot et mon serviteur sera guéri. » Rien que ces quelques versets nous montrent trois choses, trois vérités importantes. La première chose, c'est que, oui, lui aussi, il est confronté à la maladie mortelle de l'un de ses proches, de son serviteur. Quand notre monde s'effondre, que faire face à la mort, face à la souffrance? Comment est-ce que toi tu gères? J'observe autour de moi trois réponses classiques à la souffrance, à la mort. La première réponse, c'est le fatalisme, finalement, de se dire, après tout, c'est la vie, on meurt tous. Et c'est un peu ça que le centenier aurait pu faire. Oh, un esclave, un serviteur, je peux en trouver plein. J'ai juste allé au marché des esclaves et en trouver un autre. Je dis ça avec une certaine légèreté. Hein. C'est grave, évidemment. On peut déjà commencer à rechercher son remplaçant. Deuxième manière, l'épicurisme. C'est la chanson de Corneille. Alors on vit chaque jour comme le dernier. En anglais, YOLO. On ne vit qu'une seule fois. On peut se dire, c'est bientôt la fin, autant profiter de ces derniers moments, allons faire un grand banquet et mangeons tous ensemble, savourons un dernier repas ensemble. Troisième émotion que je vois autour de moi, le déni. Ne pas y croire, non, c'est pas possible. Si Dieu est bon, il ne va pas permettre que ça se passe. Il va résoudre ça. Et du coup, on se blinde, on s'enferme et on ne fait rien. Et donc, que va faire le centenier ? Il va pas être fataliste, il va pas dire « Oh, c'est qu'un serviteur, j'en trouvais un autre ». Il ne va pas vivre chaque jour comme le dernier avec ce serviteur et profiter de ses derniers instants. Il aurait pu. Il ne va pas s'enfermer dans son toit, dans sa maison, à attendre que cela se passe. Non, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tourner son regard vers cet homme, Jésus, dont il a dû entendre parler. Cet homme qui commence dans la région à faire plein de miracles. Cet homme qui, peut-être, selon lui, pourra l'aider. Et nous alors, face à ces situations tragiques, difficiles, vers qui nous tournerons-nous ? Quelle sera notre réaction ? Est-ce que nous saurons, comme ce centenier, nous en remettre à Dieu ? Deuxième chose qui est aussi très importante, c'est qu'il ne pense pas mériter de l'aide de Jésus. Il ne pense pas mériter que Jésus vienne guérir son serviteur, il ne pense pas mériter de sa miséricorde. Parce qu'il y a une conscience de sa part que quelque chose ne va pas dans sa vie. Par de péché peut-être, de la culpabilité. Ce centenier sait que quelles que soient les bonnes actions qu'il ait pu faire dans sa vie, bâtir des églises, aimer sa nation, aider un village, traiter avec amour et affection ses serviteurs et les gens qu'il côtoie. Qu'importe, tout ça, ça ne suffit pas. Il ne pense même pas à les faire valoir. Il n'arrive pas en me disant « Hé Jésus, sais, je suis un bon gars, tu devrais m'aider, tu sais. » Ces gens-là, ils le disent d'ailleurs, hein, c'est eux qui le disent. Hein. « Allez, tu devrais bien m'aider. » Pas du tout. Il sait que malgré tout, il n'est pas irréprochable. Et toi alors, lorsque tu t'en remets à Dieu, c'est avec quelle attitude ? Est-ce que c'est avec une attitude orgueilleuse à la L'Oréal parce que je le vaux bien ? Parce que je t'ai suivi ces derniers temps ? Parce que je suis allé à l'église ? J'ai fait de bonnes actions après tout. J'ai aidé au CFB, à Teen Ranch, dans les camps de vacances. Je le vaux bien. Ou est-ce que tu viens avec une attitude d'humilité, de repentance, de contrition ? Une attitude qui dit... Je ne suis pas digne que tu viennes m'aider. Troisième chose, malgré tout, malgré qu'il se sent indigne, il reconnaît et se soumet à l'autorité de Jésus. C'est ça le sens du verset 8. Moi, j'ai des soldats, je leur dis, va, et ils viennent, je leur dis, pars, et ils partent. J'ai de l'autorité sur mes soldats. Et de la même manière que j'ai cette autorité sur mes soldats, toi, je reconnais que tu as cette autorité sur la maladie et sur la mort. Il est pleinement convaincu que Jésus a le pouvoir et a l'autorité pour soigner son serviteur. Il s'en remet à lui. Il sait que sa solution à lui, c'est pas ses moyens de la science, ses progrès, ses graals, ses fontaines de jouvence, c'est je ne sais quoi. Son seul secours, c'est une parole de Jésus. Il dit un mot et il sera guéri. Et donc ça nous amène à ces... Conclusion pour ce premier passage, c'est que face à la souffrance, face à la mort, vers quoi ou vers qui tu te tournes ? Est-ce que ce en quoi tu places ta confiance est suffisant ? Comment se traduit ta soumission à Dieu aujourd'hui ? Venir à l'église le dimanche matin, donner la dîme, faire de bonnes œuvres, être gentil, honnête, aider les autres. Alors, ce sont de bonnes choses, hein, et je vous invite à les faire. Mais est-ce que votre attitude, c'est une attitude de repentance, de contrition, d'humilité ? Regardez la réaction de Jésus dans ce texte. Il l'admira. Il admira le centurion. Alors, j'ai pas lu tous les évangiles, enfin, je les ai pas relus pour préparer ce message, mais je crois qu'il y a que deux fois dans les évangiles où on voit ce mot admira. La première fois dans ce passage, et la deuxième fois, il admira les gens qui n'aimaient pas que Jésus fasse des miracles dans son village. C'est un mot qui est rarement utilisé. On voit que la foi de ce centurion, Jésus l'a en admiration. Et donc ça nous montre ce que Jésus attend de nous. Ce qu'il attend, c'est pas qu'un bon comportement. Ce qu'il attend de nous, c'est notre foi. Psaume 51, David nous dit, un sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un cœur contrit. C'est ça qu'il attend de nous. Une foi qui passe par reconnaître que nous sommes indigne, et que nous avons besoin de pardon. Une foi qui passe par lui faire confiance dans ces moments difficiles, dans ces moments de souffrance, même aux portes de la mort. Une foi qui nous ferait dire, ce sera le chant qu'on chantera après, « Si la lune me glace et le soleil menace, mon secours est en toi. » Est-ce que nous avons cette foi-là ? Ce qui nous amène au récit suivant sur la veuve, très rapidement, qui est un récit bien plus douloureux à lire si on le comprend bien. Parce que si le récit du centenier est poignant, avec son attitude, on a très vite tendance à comprendre la gravité, à très vite oublier la gravité de la chose, que son esclave est aux portes de la mort. Ici, lui qui prend pas le temps, c'est une phrase, quelques mots, moins de détails. On portait en terre un mort, fils unique d'une veuve. Quelques mots qui sont censés nous mettre froid dans le dos, qui nous glacent le sang. C'est le récit d'une femme qui a perdu son mari, elle est veuve, puis son fils. Elle a donc tout perdu. Je rappelle qu'à l'époque, les femmes, c'est compliqué de survivre par elles-mêmes, si elles n'ont pas de mari, si elles n'ont pas de fils. Alors il y a la loi du Libéra, mais je ne vais pas en parler ici. Donc on peut se dire que la suite de sa vie risque d'être compliquée. Je pense qu'on est tous d'accord de se dire qu'il n'y a rien de pire que de vivre la mort de son enfant. Quelle injustice. Et c'est censé nous rappeler ce problème-là, cette mauvaise nouvelle, que la mort est universelle, qu'elle nous touche tous, adultes comme enfants, hommes comme femmes, les milliardaires comme les plus démunis. Et je pense qu'en lisant ce verset-là, la seule chose qui nous vient en tête, si on est honnête, c'est pourquoi ? S'il tient du bon, pourquoi tu permets ça, Dieu ? Pourquoi tu permets les souffrances ? Pourquoi tu permets l'épreuve ? Pourquoi tu permets la mort de mon fils ? Et la réponse à cette question-là, c'est justement notre prochain point. Parce que face à la mauvaise nouvelle de la mort, il y a une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que Jésus, il a une autorité exceptionnelle. Et c'est ce que je vous invite à voir. Je vous invite à regarder la réponse de Jésus face à cet épisode de la veuve. Verset 13, « Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion. » Il fut ému de compassion. Il comprend la souffrance de cette veuve. Il comprend sa situation. Il comprend sa peine. Il sait que la mort d'un enfant, il n'y a rien de plus horrible, de plus terrible. Il le sait très bien parce que lui-même, il va la vivre plus tard. Et c'est peut-être la première chose qui peut nous aider dans ces moments de difficulté, dans ces moments de souffrance, c'est que Dieu sait, il voit et il compatit à nos souffrances. Peut-être que vous vous dites dans ces moments, à quoi ça sert de prier ? Dieu est loin, s'il était proche, il n'aurait pas permis ça. Qu'importe, il n'aurait pas permis que cette mort arrive s'il était auprès de moi à ce moment-là. Sache que Dieu compatit, on le voit ici, on le voit tout au long de la Bible. Et donc tu peux crier à lui. Il est là pour t'écouter, pour pleurer avec toi. Alors vous allez me dire, c'est bien Aurélien de savoir qu'il nous écoute, qu'il compatit. Mais ça m'aide pas. Ça me suffit pas. Parce que le mort, il est toujours là. Et donc super, il m'entend, je peux prier à lui, mais ça me suffit pas. Mais justement, qu'est-ce que fait Jésus ? Est-ce qu'il s'arrête aux émotions, aux sentiments ? Que fait Jésus ? Verset 14, il s'approche et touche le cercueil. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Nous avons donc un Dieu qui comprend nos souffrances, mais surtout un Dieu qui est capable d'y remédier. Nous avons un Dieu qui comprend nos souffrances et qui est capable d'y remédier. Alors nous connaissons, nous, la suite de l'histoire, et c'est facile de comprendre comment Jésus est capable de remédier à ses souffrances. Mais mettez-vous à la place du peuple de l'époque, de la foule qui le suit. Les miracles, ça ne court pas les rues. On n'en a pas dans toutes les époques. Même si on lit l'Ancien Testament, c'est qu'il y a des zones et des périodes particulières. C'est souvent lié à certains hommes. On a eu Moïse la semaine dernière, hein, rappelez-vous, avec Franz, qui nous parlait de l'épisode de l'eau changée, de l'eau amère qui est devenue douce, Mara. On a les miracles d'Élisée, certains miracles comme ceux de Daniel. Donc ces miracles, ça ne court pas les rues. Et donc quelle est leur réaction lorsqu'ils voient Jésus, cet homme qu'ils connaissent peu, ou pas encore, faire ce miracle ? Ils lui disent, ils furent saisis de crainte et ils glorifiaient en disant, un grand prophète apparu parmi nous, un grand prophète. Voici comment ils voient cet homme qui est devant eux et qui fait ce miracle. Un grand prophète. Et est-ce qu'on peut les blâmer finalement ? Parce qu'ils n'ont pas la suite de l'histoire qu'on a. En fait, il faut savoir que ces miracles-là, de la résurrection et de la guérison, eh bien, ils ont déjà été faits par d'autres prophètes dans l'Ancien Testament, notamment par Élie et Élisée. Alors c'est un peu... Non, c'est un peu petit, mais on a un texte dans 1 Roi 17 où c'est Élie qui va faire quoi ? Qui va ressusciter le fils d'une veuve. Un peu plus tard, son successeur Élisée va faire la même chose. Il va ressusciter le fils d'une Shunammite dans le texte de 2 Rois 4. Je vous parle de 2 Rois 5 parce que c'est aussi ce qu'on a vu il y a quelques semaines avec Nasser, la guérison de la lèpre de Naaman. Qu'est-ce que fait Jésus ? Eh bien, il va ressusciter le fils d'une veuve, déjà vue, si on connaît l'Ancien Testament. Il va guérir l'esclave du centenier, il va guérir un lépreux. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que le texte dans Matthieu 8 qui nous parle de ce même moment, nous met en détail aussi la guérison d'un lépreux. Donc ces miracles, Jésus, ben, c'est pas le premier à les avoir faits. Donc pour lui, c'est un grand prophète, c'est un nouvel Élie, un nouvel Élisée. Sauf que si on regarde ces miracles, en fait, si le résultat est le même, le moyen et la méthode pour guérir changent déjà. Pour Élie, alors c'est des récits assez bizarres. Comment il va faire pour guérir le fils de cette veuve? Il va s'allonger 3 fois sur l'enfant. Il va invoquer l'Éternel pour que le fils de cette veuve guérisse. Qu'est-ce que va faire Élisée? Encore plus bizarre. Il va se coucher sur l'enfant, bouche contre bouche, main contre main. Ça va pas suffire, donc il va aller dans la maison, il va faire des allers-retours. Il va refaire la même chose, il va se recoucher sur l'enfant et invoquer l'Éternel. Et l'enfant va être guéri. Il va le faire 7 fois. Exactement, Françoise, bien joué. Plusieurs fois. 2 Rois 5, le miracle de Naaman, qu'est-ce qui se passe? Nasser nous en avait parlé il y a un mois. Pour qu'il aille se guérir, il faut qu'il aille se jeter dans le Jourdain. Combien de fois, Françoise? 7 fois encore. On voit que la méthode et le moyen pour guérir ces miracles, il est assez atypique, assez bizarre, assez inédit. Et pourtant, que va faire Jésus? Un mot, une parole. Lève-toi. Il ne va pas invoquer l'Éternel parce que c'est lui, l'Éternel. Et donc, si on pense que Jésus, c'est seulement un grand prophète, ne serait-ce que même dans les miracles qu'il effectue, il y a déjà quelque chose d'encore plus grand qu'Élie et Élisée. Nous avons donc une personne encore plus impressionnante que les plus grands prophètes qui n'aient jamais existé. Il a une autorité exceptionnelle. Il n'a plus besoin d'invoquer Élie et Élisée, de l'Éternel comme Élie et Élisée. Il agit directement et puissamment. Et même dans l'épisode du centenier, qu'est-ce qui se passe? Il n'est même pas à côté du centenier. Il se trouve sur le pas de la maison et le serviteur est loin. Et il le guérit avec une phrase. Et c'est pour ça que la conclusion du peuple est forte. C'est Dieu lui-même qui a visité son peuple parce qu'ils se rendent compte qu'il y a quand même quelque chose de plus grand qui est devant eux. On n'en voit ici qu'une partie, mais dans tous les évangiles, on voit que Jésus a autorité sur les éléments, sur les démons, sur la maladie, et on voit ici sur la mort. Quelle est cette bonne nouvelle face à la mort? Nous avons un Dieu qui est présent parmi nous, qui a l'écoute de nos souffrances, qui connaît et compatit à elles. Mais surtout, nous avons un Dieu qui peut y remédier. Quel réconfort et quel espoir. Alors, finalement, on aurait pu s'arrêter là sur le texte. On aurait pu finir sur ça, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Et on pourrait même se dire, les miracles que fait Jésus ici, c'est une assurance que Dieu va guérir toutes nos maladies, qu'il va ressusciter nos proches. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre? La mort existe, mais Dieu va te guérir. Regardez comme il l'a fait. Il va enlever toutes tes souffrances, prendre tous tes problèmes et tout va bien aller. Est-ce que c'est ça que nous dit ce texte? Malheureusement, non. Alors oui, Dieu peut guérir nos maladies. Il a déjà ressuscité des morts, on le voit ici. Et alléluia, quand des miracles tels que cela arrivent et qu'ils mènent à son adoration et sa gloire plutôt qu'à celle d'un homme. Mais non, le but de ce texte, c'est pas de nous dire ça. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le Saint-Esprit a inspiré Luc d'écrire ces deux événements. En fait, il y a un truc que ce texte ne nous dit pas. C'est la suite de l'histoire pour ce serviteur et pour cet enfant. Parce qu'on sait, on peut l'imaginer, mais des années après, des dizaines d'années après, on espère assez loin après, cet enfant, il est peut-être un jour retombé malade. Et cet enfant qui a grandi, il en est mort. Et cette fois-ci, Jésus n'était pas là. Et donc, ce texte nous montre que oui, il y a un problème universel, à savoir la mort. Si oui, il nous montre que face à cette mort, il y a une bonne nouvelle, un Dieu qui nous entend, qui compatit et qui peut y remédier, il est surtout censé nous amener à regarder plus loin dans l'histoire, à faire pointer nos regards vers quelque chose d'encore plus important. Il pointe vers le rappel que tous ici, moi, vous, nous sommes malades, nous sommes morts spirituellement, séparés de Dieu par nos fautes et par notre transgression quotidienne. Et c'est ce qui nous amène à ce dernier point. C'est que oui, Jésus a une autorité exceptionnel. Mais surtout, c'est qu'il a une mission essentielle. Parce que le but de la venue de Jésus, c'était pas de guérir les gens. C'était pas de monter un réseau d'hôpitaux. Deux chapitres auparavant, Luc chapitre 5, on a cet épisode du paralytique, vous savez, où il va passer par le toit. Luc 5, 24. Il y avait un paralytique qui avait besoin d'aide. Et lorsque Jésus arrive, qu'est-ce qu'il fait en premier? Est-ce qu'il le soigne? Non. Il va faire ce qu'il considère être le plus important pour ce paralytique, s'occuper de son problème, celui de son péché. Je développe pas plus parce qu'on a eu un message dessus et je vous inviterai à le regarder sur internet si besoin. Qui est Jésus? Alors oui, c'est celui qui peut soigner les paralytiques, les lépreux, ressusciter les morts. Mais c'est surtout celui qui est venu avec une mission essentielle, s'occuper de notre condition, de notre mort, non pas physique, mais spirituelle. S'occuper de notre séparation avec Dieu. Et tant que ce problème principal n'est pas réglé, alors les deux miracles qu'on a vus, ils sont certes bien, mais ils ne suffisent pas. Ils sont que temporaires. Le vrai problème, et c'est un bon problème, on est d'accord, c'est pas la souffrance de ton proche, la mort de ton proche. Le problème, c'est ce qui a causé cette mort, la racine du mal. Alors comment va-t-il faire? La suite du texte, du Luc chapitre 7 au verset 22, nous montre ceci. Et il leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Ce texte est tiré de l'Ancien Testament, d'un passage dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 35. Un passage qui nous montre exactement ce qui se passe là. « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, alors s'ouvriront les oreilles des sourds, le boiteux sautera, et la langue du muet éclatera de joie. » Et le dernier verset que je vous ai mis dans Ésaïe 35 qui est génial, « Les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront avec Sion avec des chants de triomphe, une joie éternelle couronnera le tête, l'allégresse et la joie s'approcheront. » Et surtout, plus de douleur, plus de gémissements. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Un endroit où il n'y aura plus de maladies, plus de douleurs, plus de gémissements, plus de meurs, plus de morts. C'est ça qui nous donne envie, j'espère. Mais comment? Comment ça va se passer? On voit le début du verset 5. Alors, s'ouvriront. Lorsqu'on a un « alors », ça veut dire qu'il faut regarder ce qui est avant. Parce que comment ça va arriver? Ésaïe 35, verset 4. « Dites à ceux qui ont le cœur trouvé, prenez courage, ne craignez pas. Car voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution, la colère de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. » Comment est-ce qu'on va avoir plus de morts, plus de douleurs, plus de gémissements? Par la colère de Dieu. Par la venue et la rétribution de Dieu. Ça fait peur, hein? Ça peut paraître bizarre, ça. Est-ce que quelqu'un ici a déjà reçu la pleine colère de Dieu? Je pense que non. Enfin, j'espère. Je ne serai plus là pour en parler. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas reçu directement la colère de Dieu? On ne l'a pas reçu parce qu'il est venu lui-même, en personne, et que cette colère, il l'a reçue à notre place. On la chantait tout à l'heure avec Ange et Hussel. Sur lui, la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris par la mort de Jésus. Je vis. C'est ce qu'on a chanté tout à l'heure. Est-ce que vous l'avez compris lorsqu'on l'a chanté? Si nous n'avons jamais reçu cette colère, cette rétribution de Dieu que nous méritons, c'est parce que Jésus l'a prise à notre place en venant mourir sur une croix. Il est venu régler une fois pour toutes le problème de la mort. En la prenant à notre place. Et c'est ça le message essentiel de l'évangile. C'est pas le Fils de Dieu, un grand prophète est venu te guérir, te soigner de tes problèmes, de tes souffrances. Non, c'est que le message de l'évangile, c'est que toi, tu es mort également, séparé de Dieu. Mais que Jésus est venu mourir sur cette croix à ta place, par amour pour toi. Et pourquoi je vous parlais de Matthieu 8 tout à l'heure? Parce qu'à la fin de la même péricope, dans le même passage dans Matthieu 8, on a un verset supplémentaire qui nous dit au Matthieu 8, verset 17, « Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » C'est encore une autre citation du livre d'Ésaïe au chapitre 53, le serviteur souffrant qui va jusqu'à la croix se charger de nos maladies, de nos iniquités. Et c'est vers ça que pointe ces miracles finalement. Ils pointent vers la croix. Ils pointent vers le besoin essentiel d'être sauvé, d'être guéri de notre mort spirituelle et de notre séparation avec Dieu. C'est ça le message de ce texte. Je vous propose de conclure. Parce que qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Face à ce qui vient d'être lu et entendu, qu'est-ce que l'on fait? La suite du chapitre 7, qu'on n'aura pas le temps de voir ensemble, la semaine prochaine on fera le Luc chapitre 8, je vous invite donc, si vous avez le temps, à les prendre et à les étudier, ces deux passages magnifiques, c'est que le premier récit, la seconde péricope au chapitre 7, versets 18 à 38, bah, ça nous montre que face à ce qui vient d'être lu, il faut un choix, il y a un choix à faire. Est-ce que ce que tu as lu est vrai ou c'est juste un récit pour nous faire prendre conscience que la mort est présente et qu'il nous faut une solution? Est-ce que la parole de Dieu et les signes, les miracles qui sont présents dans ce texte sont suffisants? Suffisants pour que dans les moments de souffrance, face à la mort, tu trouves ton secours en nul autre que Christ. Deuxième chose, est-ce que ça change ton comportement? C'est le passage de la femme pécheresse et de Simon le pharisien. Est-ce que savoir que Jésus, fils de Dieu, est venu sur cette terre et a souffert la mort que tu mérites, est-ce que cela, ça change quelque chose à ton comportement? Ça change quelque chose à ta vie? Est-ce que ça te pousse à vivre une vie passionnée, zélée pour l'évangile, conditionnée par son pardon et son amour? C'est à ça que nous montre le texte de Simon et la femme pécheresse. Donc je te repose cette question. Face à la souffrance, face à la mort, vers quoi? Vers qui tu te tournes? Vers les miracles de la science? Ou vers le miracle de Christ à la croix? Vers sa mort et sa résurrection? Est-ce que comme ce centenier, tu auras cette espérance en l'autorité de Jésus et tu pourras clamer haut et fort « Si la lune me glace et le soleil menace, mon secours est en toi ». Est-ce que tu auras cette confiance qui, comme David, au psaume 23, te permettra avec assurance de dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Et quand bien même, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Prions. Oui, Père, merci pour ce super texte qui nous montre que tu compatis à nos souffrances, mais que surtout que tu as un moyen d'y remédier. Ce moyen, ce n'est pas de nous guérir temporairement, mais éternellement, en prenant sur toi notre condition de mort, en prenant sur toi notre péché, notre culpabilité, en prenant sur toi cette colère que nous méritions. Merci pour ce sacrifice que je ne méritais pas, je suis indigne de le recevoir. Mais pourtant, tu l'as fait par amour pour moi. Et c'est pourquoi je veux avoir comme David cette assurance que, quand bien même, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi.